Niptech vous est présenté avec la participation de la nouvelle organisation des entrepreneurs qui soutient les entrepreneurs depuis 1922. Retrouvez plus sur cette organisation à l'adresse node1922.ch, node1922.ch. Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 256. Nous sommes le lundi 1er décembre 2014, dernière ligne droite de l'année, on est en pleine forme, on parle de tech, de start-up, d'inspiration, de tendance et plutôt calme cette semaine parce que il y a eu Thanksgiving aux États-Unis. Donc une émission tranquille comme on aime, on va se laisser aller joyeusement parce qu'il y a quand même eu de l'actualité, vous le verrez. Et pour discuter de tout ça, nous sommes trois fidèles là à notre habitude. Mike est là tranquillement. Comment vas-tu Mike ?
Salut Ben, tout va bien, très content d'être là et surtout très content d'être avec Sophie parce que ça va être la troisième fois qu'on a essayé de faire le podcast ensemble et à chaque fois ça marchait pas. Donc celle-là, normalement, ça doit être la bonne.
Oui, Sophie également depuis Boston même, c'est bien.
Salut tout le monde, Happy Thanksgiving depuis Boston et Mike, j'envoie des bonnes ondes pour que tu puisses rester connecté pour tout le podcast, donc je touche du bois.
Mais tu sais, ce qui est hallucinant, c'est que des fois, comme ça, on n'a pas de bol. Et franchement, ça m'était jamais arrivé. Quoi. Je sais pas combien, 200 et plus épisodes. Ça m'est jamais arrivé de jamais réussir à me connecter. Mais cette fois, c'était la mauvaise. Mais enfin,
je l'ai pris personnellement. Hein. Je me suis dit, il me fait faux bon, il me fait parler pendant tout le podcast. C'est le test.
C'était le test suprême. T'as passé.
La fois d'avant, c'était ton réseau carrément ouais. À Boston qui était tombé, non ?
Qui a lâché, ouais, tout le réseau du consulat, ouais.
Ouais. Bon, donc allez, on touche du bois, mais normalement, là, il y a eu Thanksgiving, Internet a pardonné à tout le monde. Je sais pas ce que vous avez fait au réseau pour qu'il vous fasse un truc comme ça, mais là, bon. Moi, normalement, si je calcule bien, ça doit être mon tour, donc je touche d'autant plus du bois pour que ce soit pas le cas. On est donc tranquillement là aujourd'hui. Sophie, toi, tu m'as dit là dans les notes de l'émission que tu avais été voir quelque chose au MIT qui s'appelle le Sensible Lab, au Sensible quelque chose comme ça. Quand il y a MIT et Sense quelque chose, de toute manière, je suis preneur. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, juste pour remettre dans le contexte, MIT ont quelque chose qui s'appelle le Computer Science and Artificial Intelligent Laboratory. Donc, il y a beaucoup de big data qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont énormément d'analystes de big data. Et le Sensible Lab, c'est un petit peu différent, ça fait partie donc de ce domaine de Artificial Intelligence. Mais c'est le big data qui est lié à l'urbanisation. Donc, ils ont lancé quelques projets, dont un qui est assez connu parce qu'il a maintenant servi un peu à Uber. C'est je crois que ça s'appelle UpCab.
UpCab.
Exactement, UpCab, qui explique qu'en fait, grâce aux data qu'ils avaient récolté de tous les taxis GPS de New York, ils ont permis de mettre en place un système pour faire du carpooling, pour voir comment est-ce qu'on pouvait partager le taxi de quelqu'un, que ça soit toujours profitable et aussi rapide, plus ou moins, pour chaque individu. Et il faut savoir que à partir de ça, Uber vient de lancer, il y a, je crois, 2 ou 3 mois, à San Francisco, un nouveau service qui est justement le carpooling. Donc, on peut partager son Uber avec d'autres personnes. Donc,
par exemple, c'est Uber ou Lyft ?
C'est Uber.
Uber ? Ah, d'accord. Parce que bon, Lyft propose de faire ça aussi.
Donc, je pense que c'est une réponse à ce qu'il faisait. Parce que au concurrent d'Uber, on sait qu'Uber est assez agressif. Je crois que Lyft faisait ça, non ? On pouvait partager sa voiture ou partager son cab. Donc, je pense que c'est une réponse à ça. Moi, je trouve assez hallucinant. Une question que j'ai par rapport au MIT, est-ce que c'est tous des doctorants est-ce qu'ils sont, les gens sont payés là-bas et est-ce que ils travaillent pour la communauté scientifique ou ils travaillent pour s'enrichir plus tard à la Silicon Valley?
Alors, il travaille vraiment pour la communauté scientifique. Il faut voir un peu le look, entre guillemets. Il y a vraiment un style MIT. C'est des
Est-ce qu'il y a
passionnés.
des Birkenstock dans l'histoire?
Il y a de la...
Ils ont des barbes.
Alors, ils ont des barbes. C'est le t-shirt qu'on retourne de l'autre côté quand on n'a pas eu le temps de le laver. Et c'est très, très relax. En revanche, ils travaillent énormément parce que c'est vrai qu'ils travaillent aussi le samedi, dimanche, ils retournent dans leur lab parce qu'il y a beaucoup de compétitions entre eux en fait par rapport aux recherches. Mais ouais, non, c'est pas vraiment pour s'enrichir. S'il y a un côté renommé, on a envie d'avoir quand même la gloire sur son propre lab.
Juste pour ceux qui aimeraient trouver ce dont on parle, donc c'est Sensible, c'est une sorte de jeu de mots sur Sense et Able, donc c'est Sensible.mit.edu. Et puis si vous allez jeter un coup d'œil sur Hubcap, ils ont des jolies vidéos et tout ça, c'est hubcap.org. Voilà, donc ça,
Moi,
c'est
juste
assez simple, il y a plein d'autres choses encore, vous avez de quoi passer un bon moment, ouais.
pour revenir à ça, moi je trouve que ça fait partie d'une tendance qu'on voit souvent, qu'on commence à voir de plus en plus souvent, le fait de pas seulement avoir du big data et savoir les analyser, mais savoir les visualiser. Et je vois de plus en plus de startups qui commencent à pouvoir donner des outils pour les visualiser. D'ailleurs, j'avais mis un truc les notes de l'émission. Vous avez entendu parler de Charted. Charted, c'est Medium qui a sorti ça. Vous
Oui.
connaissez peut-être la plateforme Medium de Ève, de l'ancien Ève de Twitter, qui cartonne d'ailleurs Medium, qui fait bien. Et au fait, eux, ils avaient une espèce de data visualization tool qu'ils utilisaient. Et ils l'ont sorti, ils le distribuent gratuitement. On l'a sur GitHub, ça s'appelle Charted. Et on peut downloader, on upload sa feuille Excel avec ses données dedans et on peut visualiser les données. Alors, j'ai encore pas essayé, mais ça devient de plus en plus trendy. En plus, je me dis, c'est gratuit, plus souvent. On n'a même plus besoin de payer, donc j'aime bien.
Ouais, c'est clair. Moi, tout ce qui est data visualization, c'est vraiment sur mon radar aussi, parce que c'est bien beau big data,
Oui,
enfin tous
oui.
ces deep learning et tout ça, mais nous, êtres humains, il faut qu'on trouve un moyen de communiquer avec ces données, hein. Et je suis entièrement d'accord. Donc c'est hyper intéressant. Bon, là, c'est plus le côté smart cities, mais tout ce qui est développé sur la visualisation d'un côté va pouvoir être réutilisé par ailleurs. C'est cool. Est-ce qu'il y a encore un autre projet qui t'a marqué en particulier ou
Bah,
celui-là, il est iconique,
alors il y
on
en
va
a
dire?
un qu'ils ont fait qui me marque énormément, qui s'appelle
Ah.
Trash Track. Donc ils ont été à Seattle et ils ont demandé à, je crois, 100 habitants de venir avec leurs poubelles. Et les gens sont venus, ils ont traqué leurs déchets et ils ont
Hooray!
suivi leurs déchets à travers les États-Unis. Donc de temps en temps, on pense qu'on recycle quelque chose. Mais en fait, on peut suivre le déchet et il traverse toutes les États-Unis et on se dit, mais c'est pas du recyclage, quoi. Ça a rien à voir vu la consommation. Donc ils essayent vraiment avec ça d'aider aussi, comment ils appellent ça, policymakers, les gens dans le gouvernement, législateurs, à voir ce qui se passe vraiment et peut-être remodifier les lois qui ont un sens. Parce que apparemment, ouais, au niveau de Clean City, c'était pas trop ça.
Donc en gros, tu me dis que ta poubelle, elle finit dans un désert au Mexique, quoi.
Ouais.
En gros. Eh
Elle
ben,
peut
c'est
descendre
joli.
d'un côté aux États-Unis, puis on la voit retraverser, remonter. Donc c'est génial au niveau de la visualisation pour comprendre ce qui se passe.
Et
Wow.
est-ce qu'ils expliquaient comment est-ce qu'ils traquaient ça? Est-ce qu'ils avaient mis un petit GPS chip? Parce que je pense que ça peut être aussi démonté, hein. Si on jette quelque chose, je sais pas, une bouteille d'eau, après, elle peut arriver, elle peut être démontée. Le chip était minuscule pour pouvoir réussir à traquer ces petites choses.
Alors, ils nous ont montré, il est pas minuscule, c'est pas un nano chip, sinon ça aurait coûté un peu trop cher, mais non, non, il est quand même assez visible. Donc on peut suivre l'élément avant que l'élément soit détruit, mais avant d'arriver à une centrale, en fait, où on peut commencer le recyclage, l'élément traverse 5 ou 6 fois tous les États-Unis. C'est ridicule.
Ouais. Écoute, c'est hyper intéressant. Bah, merci déjà. Alors, rien que ces nouvelles-là, bah, ça va nous donner de quoi regarder. Parce que là, on parle de deux projets, mais quand on va sur le site, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on va pouvoir s'amuser un bon petit moment. J'ai vu, Mike, que toi, tu avais mis une vidéo de la NipConf dans les notes de l'émission. Alors, juste aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Alors, soit vous allez sur YouTube et puis vous cherchez NipConf et vous trouver la playlist. Soi-même, j'ai mis la playlist sur le site de la nipconf.com. Et là, vous pouvez ben, browser. Il y a 15 interventions, les 14 speakers et un petit mot de notre sponsor au début. Pourquoi tu l'as mis en particulier,
ben,
celle de Roxane Barza?
Je l'ai mis pour qu'on en parle justement.
Ah,
Parce
bien
que
vu.
je les avais attendus depuis trop longtemps. D'ailleurs, je te faisais remontrance. On en a parlé dans notre petit podcast sur la NipConf où on faisait des autocritiques. On disait qu'en fait, une vidéo doit être mise en ligne directement, voire une heure après la conférence. Donc là, j'étais
Oui.
content de les voir. Je me suis dit, allez, je vais en tweeter une par jour. Et je suis très content de les voir. Je me réjouis d'en voir quelques-unes qui m'avaient un peu marqué comme ça, ou quelques-unes que peut-être j'avais pas compris totalement. Donc je vais aller y retourner. Tu sais combien il y a eu de views? Parce qu'on aime les chiffres, non?
Alors,
Jusqu'à
c'est
maintenant.
intéressant, on voit, je peux vous dire, peut-être les deux qui ont eu le plus de succès. C'est celle de Ethereum qui a été postée sur
Ah
leur communauté, qui
oui.
était très très avide, leur communauté francophone, de comprendre en français comment ça fonctionnait, qui arrive à 276 vues. Et puis la deuxième, et c'est pas une surprise non plus, c'est celle de Jean-Philippe Ancos, voilà, qui est autour de 250 vues. Donc là, c'est en quelques jours, donc c'est pas mal. Pour dire que bah, il y avait à peu près 300 personnes dans la salle, eux, ils vont pratiquer en une semaine se faire autant de vues qu'il y avait de personnes dans la salle. Et puis les autres, on voit les réseaux des uns et des autres hein, qui sont plus ou moins étendus. Mais non, ça monte gentiment pour toutes les vidéos, donc c'est cool.
Ok, ben c'est sympa. Ben moi je dis allez-y, hein, youtube.com/niptechpodcast.
Non, slash.
Ah non, Nipconf, pardon.
Voilà, et
Non,
c'est
ça.
la Nipconf parce que pour des
Non, c'est
raisons
la
obscures.
Nipconf, parce que moi je suis allé sur la Nip Con... je suis allé sur Nipconf et ça marchait pas.
Bah
La
oui,
Nipconf, ok.
exactement. Bon, voilà, bah c'est très très bien. Tu as eu raison de nous rappeler d'en parler. Et moi, j'ai eu du plaisir à les revoir aussi. C'était vraiment bien. On va passer à la rubrique plutôt nouvelle. Alors, il y en a une qui m'a interpellé, que j'ai trouvé assez cool pour plusieurs raisons. D'une part, parce que oh, c'est la période des fêtes. Et puis, à la période des fêtes, on commence à avoir un petit. On est plus ouvert, on est plus généreux, on est un petit faible pour ben, ceux qui sont dans le besoin. Et là, c'était une nouvelle sur Sony, donc il coche vraiment toutes les cases de difficultés et de
Ça
misère.
va.
Non, ils ont lancé un crowdfunding autour d'une e-paper watch. Alors déjà, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils ont lancé ça sur un site japonais qui s'appelle Makuake, Makuake.com. Et le projet s'appelle FES, FES Watch. Et ce que j'aime bien déjà dans la vidéo, alors c'est tout bête, mais quand vous lancez la vidéo sur leur site, ce site Makuake, en fait après quand vous scrollez, la vidéo vous suit. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les différents rewards et les différentes explications de la montre tout en regardant la vidéo. Et je trouve que dans un site comme celui-là, ça a tellement de sens et c'est vraiment, vraiment super bien fait. Après la vidéo, elle est cool en elle-même parce que c'est une vidéo à la japonaise. Donc c'est-à-dire que pour nous, occidentaux, c'est juste bizarre, quoi. Et la montre elle-même est bizarre. Elle a donc cet écran e-paper qui fait en fait tout le tour avec le lacet inclus, comment on appelle ça, ouais, le bracelet inclus. Et puis leur idée finale, et c'est pour ça que c'est assez cool, après j'aimerais voir ce que vous en pensez, c'est que ils aimeraient avoir cette espèce de e-paper aussi sur d'autres éléments, par exemple sur vos lunettes. Et puis ça vous permettrait ainsi d'avoir d'un coup la montre qui se synchronise aux lunettes, mais que au niveau de l'apparence. Donc ils ont vraiment ces côtés fashion et c'est là-dessus qu'ils jouent en se disant finalement comment est-ce qu'on peut jouer avec nos habits ou nos parties, nos wearables qui sont solides. Moi je pense que c'est un truc qui doit venir d'Asie si ça vient de quelque part parce qu'ici voilà. Est-ce que vous avez pu le voir et est-ce que vous appréciez? Alors Sophie, pas que tu n'ailles pas un sens de mode très développé Mike, hein, mais je pense qu'on a peut-être que. Est-ce que toi Sophie, tu as un sens de mode plus développé? Sinon, à nous trois, je pense qu'on ne sera pas très fort, quoi.
Je fais quelques efforts pour essayer de développer mon sens de mode, mais toujours très limité. Je suis pas encore à la Fashion Week là.
Bon, bah, alors on va faire de notre mieux à nous trois pour voir ce qu'on en
Faire
pense.
kick-quick.
Ouais. Non, mais moi j'ai regardé cette vidéo et la montre, et c'est vrai que je trouve, si je compare à toutes les smartwatches qu'on fait, etc., là ils ont vraiment intégré fashion tech et un côté esthétique pour leur montre, et je me verrais très bien la porter, je la trouve jolie. Tandis que là, je regardais pour les cadeaux de Noël, etc. Je regardais les montres comme la Samsung, Peebles. Elles sont moches. Ça donne pas très envie de les porter. Et puis surtout de les montrer. Donc, je pense que Sony a une très bonne approche à ce côté wearable, fashion. Et j'espère qu'ils vont continuer à développer quelques produits.
Et sur le fait qu'ils soient sur un site de crowdfunding, leur idée étant de tester avant de commencer à produire. Donc on voit les grosses sociétés maintenant qui utilisent le crowdfunding pour prototyper en fait, et ça c'est quand même assez intéressant, non?
Alors, ben justement, par rapport à ça, j'avais parlé avec les gens de Crowdtilt aux États-Unis. C'est aussi un site internet, un des plus grands aux États-Unis, qui était au début caritatif, mais qui a changé et qui maintenant permet aux gens de faire des préventes. C'est-à-dire qu'on utilise crowdfunding pour faire un système de prévente. Et ce qu'il faut, le lien là avec Sony, c'est que Sony voulait pas dire que c'était eux qui avaient créé la montre. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait crowdfunding pour aller dans l'anonymat, pour voir si le produit plaisait et pas parce que ça venait de ce branding. Donc ça a été un peu l'approche et je pense que c'était un carton parce qu'ils ont récolté plus que ce qu'ils avaient demandé, je crois 17 000 dollars. Ils ont récolté plus et ils ont
Bon,
dit que ça allait être envoyé en mai. Après, il faut voir, hein.
c'est quand même pas hyper ambitieux. Bah, on voit des montres. Je
Ouais.
leur demandais pas forcément de demander pour 1 million de dollars, mais enfin, genre 100 000 dollars, ça semble un petit peu le service minimum. Mike, t'en dis quoi?
Bah moi ce que je pense, hors la montre, parce que j'ai regardé la vidéo pendant que vous parliez, et en fait c'est plutôt le e-paper qui m'intéresse. Il montre des exemples à la fin de la vidéo qui sont assez intéressants, qui sont du e-paper sur des lunettes. Et donc tu passes ton smartphone sur ce e-paper et il va prendre par les couleurs que tu as mis sur ton smartphone en utilisant leur app. Et ça je trouve intéressant. Ou alors il montrait des chaussures qui pouvaient changer de couleur. Les Japonais, eux, sont des fashionistas, hein. Ils sont vraiment incroyablement fashion, et je pense que hors la montre, qui pour moi, ok, c'est bien, mais elle n'a pas l'air d'avoir, à part de changer de couleur et de s'adapter, je trouve pas, j'ai pas trouvé quelque chose d'incroyable. Je pense plutôt que c'est le e-paper qui est la révolution là. Alors moi, je trouve que ça super intéressant parce que on veut toujours personnaliser son t-shirt, personnaliser son vêtement, personnaliser ses lunettes ou n'importe quoi. Et là, ça nous permet de le faire. Donc je trouve assez hallucinant et ça a l'air de fonctionner. Alors ça et aussi le fait que quand on scrolle, la vidéo descend, quoi. J'ai essayé ça au moins 50 fois, j'en peux plus. Je sais que c'est YouTube parce que j'arrive à voir, mais je me dis alors celui d'entre nous là, un de nos auditeurs qui nous écoute et qui sait comment on fait cet effet. Sur Makuake, donc Makuake.com, purée, alors là, je lui dis mille merci.
Moi, je veux juste
Ouais,
rajouter
c'est...
un truc, Mike. Ce
Oui.
que je veux dire, c'est que c'était justement ça la définition de fashion tech. Ça doit pas faire 10 milliards de. C'est pas un objet qui a 10 milliards de gadgets. Ça change la matière, vraiment. Et maintenant, de pouvoir avoir des vêtements qui ont des matières intelligentes. C'est ça, donc je trouve c'est un produit intéressant dans la fashion tech, on n'en voit pas beaucoup, et j'espère qu'on en verra d'autres avec des matériaux intelligents.
Après, on peut s'imaginer tout, hein. On peut s'imaginer son bureau. On n'a même plus besoin d'écran. On a cette espèce de e-paper qui peut après se transformer en un keyboard, en plein de choses comme ça. L'idée du e-paper, je trouve hyper intelligent, quoi, et hyper, hyper innovateur. J'avais encore rien vu de tel. Donc, je demande à voir si ça fonctionne. Ben voilà, on attend CES pour être sûr, j'imagine.
Il semblerait qu'ils aient en tout cas déposé une bonne poignée de brevets à la Apple, hein. Ils l'ont breveté à mort, de ce que j'ai entendu. Donc ça va être vraiment intéressant. Et puis bravo à eux, bah, tant mieux. Moi j'aime Sony, c'est voilà, c'est ces sociétés japonaises. On aime les voir renaître de leurs cendres un petit peu. Alors bien sûr, ils existaient encore, mais c'est comme Nintendo, d'un coup ils sont morts et pas qu'ils reviennent, etc. Donc je me réjouis. Peut-être que ça sera effectivement ça qui leur permettra de revenir. Il faut maintenant qu'on parle, parce que là on a quand même fait l'impasse sur un des gros thèmes du sujet. On le fait chaque année, c'est un petit peu notre dindon à nous. C'est parler du Black Friday et du Cyber Monday qui est bah, en ce moment même, mon Dieu. C'est
En
vrai?
ce moment même,
Eh bien, Sophie,
exactement.
ça, merci d'être avec nous. Malgré que tu puisses profiter du Cyber Monday, tu es quand même avec nous. Moi, j'aimerais, j'aurais plein de trucs que j'aimerais acheter au Cyber Monday. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez vu passer là-dessus? Il y a sûrement des chiffres qui sont sortis. Toi, Mike, je sais que tu suis ça avec l'œil de l'aigle. Alors, raconte, quoi.
Bon, ben, c'est toujours la même chose, hein. Le retail, on commence les soldes. Ce qui a été intéressant avec le Black Friday, qui arrive après Thanksgiving, que la plupart des Européens ne fêtent pas, hein, c'est qu'en fait, il s'est exporté. C'est ça qui a été hallucinant de voir qu'on a eu des Black Friday au UK, pas seulement aux États-Unis, et aussi, même en Suisse, hein, les Internet retailers ont envoyé des newsletters que j'ai reçus sur Black Friday. Et c'est comme devenu le moment où le début des soldes pour Noël. Et ça commence à être mondial, donc ça a l'air de fonctionner. Une chose que j'ai lue, j'essayais de trouver des chiffres et ils disent que online sales are up 8,5%. Donc ils disent que les ventes en ligne sont augmentées de 8,5%. Et 20% de ces ventes venaient de iOS. C'est IBM qui analyse toujours ce genre de choses. Et il dit la plupart des onliners, ça c'est PayPal qui a fait une analyse des paiements, ont commencé leur deal à partir de mercredi. Et le pic, c'était le jeudi. Quand on sait que la plupart des magasins aux États-Unis sont fermés, mais ils ouvrent à partir de 6 heures le soir, je crois, eh ben, les headliners, eux, ils ferment jamais. Ils ont commencé vraiment à beaucoup vendre déjà à partir du mercredi. Donc, la tendance, c'est quoi? Il semblerait que le online continue à grimper et que les mobiles aussi.
Ouais, bon, bah donc on est dans les bonnes tendances des dernières années. Comment est-ce qu'on le vit depuis les États-Unis, Sophie? Est-ce que tu as fait péter la carte de crédit ou finalement, bof, quoi?
Je l'ai bien fait chauffer. Je sais pas si je l'ai fait péter. En tout cas, j'espère qu'elle va encore fonctionner aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses en fait d'avoir ce Black Friday et ce Cyber Monday. Déjà la mentalité de faire ses cadeaux de Noël. C'est-à-dire que quand j'habite en Suisse, j'ai l'habitude de faire mes cadeaux de Noël à la dernière minute. Ici, tout le monde a déjà fait ses cadeaux de Noël. On profite de l'occasion et pour eux, c'est vraiment le dernier moment pour faire ses cadeaux. C'est durant Cyber Monday et Black Friday. Après, pour les offres, par exemple, Black Friday, moi j'ai été dans un outlet, donc c'est déjà en principe moins cher et en plus, j'ai bénéficié de 40%. Donc je peux dire que ça revient à rien du tout. Et il y a énormément de monde, ce qui explique en fait le succès des Cyber Monday, où on est tranquille chez soi, il n'y a personne, et on peut faire des très très bonnes affaires sans se stresser et sans avoir besoin de patience. Et je trouve que Internet permet aussi de faire une bonne sélection entre les mêmes produits. C'est-à-dire que si on cherche un produit en particulier, on le met dans Google et on voit tous les différents deals et direct le prix. Donc c'est pas comme si je dois chercher dans un magasin pendant des heures, aller dans un autre magasin et encore un autre. C'est beaucoup plus efficace avec Internet de faire les bonnes affaires.
Est-ce que tu achètes des habits en ligne ou pas?
Alors moi j'achète pas vraiment des habits en ligne parce que je suis compliquée, mais j'ai eu la mauvaise idée de donner mon adresse à ma famille et ma sœur a fait shipper tous ces vêtements que je vais devoir ramener en Europe. Donc il y a des gens qui font ça.
Ah, donc on peut utiliser ton adresse. Bon, alors appel à la
Non,
communauté. Du moment que tu viens avec un cargo, c'est tout bon. Non, c'est... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, bah, c'est intéressant, c'est vrai qu'ici, on voit arriver. Hein. Moi, je me suis aussi promené un petit peu ces derniers jours et on voit que ça chauffe maintenant. Bon, bah, à nous de changer nos habitudes, alors, faire les cadeaux plus tôt.
bah, j'espère.
Ouais, mais une chose que je crois aussi aux États-Unis, c'est que je crois qu'à Thanksgiving, ils s'offrent des cadeaux, non, en famille, chose que nous, on fait pas trop, enfin, vu qu'on fête pas Thanksgiving, on le fait pas trop. Une chose qu'on voit, maintenant que je voyage un peu à travers l'Europe, je vois que vraiment les outils, alors, comme aux États-Unis, partout, le online se développe, mais, Chaque pays est un peu différent en termes de développement du online en Europe. La Suisse est à un certain niveau, la France a un certain niveau, la Hollande et le UK sont beaucoup plus en avance sur le reste, l'Allemagne suit derrière. Donc je veux dire, il y a beaucoup plus, je sais pas, il n'y a pas un marché européen, je dirais, il y a plusieurs marchés européens avec plusieurs façons de faire différentes. Et c'est pour ça que bah, Amazon, malgré leur grosseur et malgré leur énormité, ils réussissent pas à dominer tout le marché européen. Ils sont bons au UK, en Allemagne. Ils commencent un peu en France, mais sinon, ils sont pas si gros que ça, quoi.
Ouais. C'est vrai que tu parlais d'emails qui sont arrivés. Moi, j'ai eu un petit saignement là, un petit coup de blues parce que. Alors pour une bonne nouvelle, hein, c'est Unroll.me. Je sais pas si vous, on en
Ah
avait
oui.
parlé il y a très longtemps d'Unroll.me. Hein, donc c'est ce service qui vous permet en fait d'agréger vos emails dont vous n'avez pas envie de lire forcément dans un email, un digest quotidien. Et donc, bah, tu as tout, tes newsletters, disons, sur lesquels tu as envie de jeter un coup d'œil, mais pas forcément de lire trop, qui arrivent. Et il était juste parfait, ce service. Et pourquoi je dis il était? Parce qu'il a été racheté par une boîte qui s'appelle Slice, qui est plutôt dans le shopping, qui lui-même
Oui.
appartient à Rakuten. Et sincèrement, on savait que ça n'allait pas durer tout le temps et qu'ils n'avaient pas de business model. Alors, ils avaient mis un peu de pub dedans et tout ça, mais ça se voyait qu'ils allaient être rachetés, donc je leur en veux pas. C'est cool, tant mieux pour eux. Mais il n'y a aucun moyen au monde que je laisse mes emails dans les mains de Rakuten ou d'une boîte qui fait ce genre de e-commerce. Là, au niveau de la confiance, je suis vraiment à zéro, quoi. Alors, est-ce que je suis, vous pensez, trop dur, trop parano ou vous feriez de même si vous êtes inscrit, ouais, Sophie?
Moi, je ferais totalement de même. Je vais absolument pas donner mes informations à Rakuten, mais je pense que le consommateur en général est peu craintif. Quand je vois qu'il veut donner ses données bancaires à Snapchat pour faire du Snapcash ou à Facebook pour faire du paiement, ou qu'on sait qu'il va aussi utiliser les données pour d'autres choses, je pense ou aussi le scandale qu'il vient d'avoir aussi avec Uber, l'application qui a plein le malware, et les gens se disent, moi je préfère quand même avoir le service, je m'en fiche après de ce qu'ils font de mes informations. Je pense que ça va leur sauter au nez s'ils font pas attention, mais je sais pas, c'est mon avis et je ferai la même chose que toi.
Ouais.
Moi, j'avais utilisé Slice, hein, donc ceux qui ont racheté Unroll, et j'avais utilisé, au fait, qu'est-ce que c'est comme service? C'est un service qui analyse ton inbox pour les paiements que tu fais. Et c'était assez cool parce qu'avec Slice, tu mettais tes deux, trois emails, et il allait analyser ce que tu achetais, et après, il te disait, ben voilà, tu dépenses tant dans les livres, tu as dépensé tant, et tu pouvais comprendre ta manière d'acheter. Alors, bien sûr, il fallait utiliser toujours le même email ou en connecter plusieurs, mais le concept était bien. D'ailleurs, j'ai toujours l'app là. Je vois que je comprends le fait de pas vouloir donner ces emails à tout le monde, mais en même temps, Google les ont déjà. Hein. Mais vu que tu es un ex-Googler, peut-être tu as un autre point de vue, hein, Ben. Mais Google scanne tes emails, Google regarde et Google te vend des choses. Donc voilà.
Oui, mais c'est eux qui. Ton email, il est chez eux déjà à la base, donc t'as pas le choix. Si tu veux, moi, ce que je veux pas, c'est avoir trop de monde. Qu'il y aille, toi, c'est quelques perdus sur mes emails, ça va, mais au bout d'un moment,
Trop.
toi, sinon, je les mets en public,
Oui,
quoi.
oui,
Ça
oui. Mais
suffit.
je pense que c'est ce qu'il faut commencer à se dire. C'est que l'email est public et un jour ou
Oui.
l'autre, tout le monde saura ce que tu as écrit, même quelque chose de mal.
Mais il
Oui.
faudrait que ce soit plus ou moins transparent. C'est ça un peu le problème. C'est ce qu'ils font. C'est rarement transparent. Donc Google, bon, bah, tout le monde le sait. On en a bien écrit par dessus, etc. Ce qu'ils font. Mais d'autres boîtes, non, quoi.
Ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, tant mieux, mais c'est toujours le même truc, hein. On sait dans ce genre de produit que, bah, ils sont pas éternels et par conséquent, c'était une fin optimale pour eux. Donc, on va se réjouir quand même pour eux dans le vrai esprit de Thanksgiving et des fêtes. Et
Combien ils
puis,
sont faits de pognon, tu sais, au moins?
non, j'ai pas vu le chiffre, quoi, mais j'espère bon, je pense pas qu'ils se sont fait des milliards parce que c'était dur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont 1 million d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on espère qu'ils gagnent quand même 4 ou 5 $ par utilisateur, non? Pour pouvoir lire les emails, ça semblerait pas mal. Moi, j'espère qu'ils sont faits entre 5 et 10 millions de dollars, mais je pense pas qu'ils ont fait beaucoup plus que ça.
Bah, c'est déjà pas mal.
Si jamais, Mike, tu étais en train de parler de quelque chose qui a, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui analyse tes données financières, ce que tu dépenses, etc.
Slice.
Slice.
Oui.
Ben, moi, je trouve que Mint,
Oui.
c'est très très bien. Ça fait la même
Oui.
chose et ils sont reliés à personne. Ils sont indépendants et en tout cas, c'est ce qu'ils disent pour le moment et c'est plutôt transparent. Donc peut-être un service à regarder, surtout dans
Oui.
cette période de
Mais
fête de Noël.
on a parlé de Mint maintes et maintes fois
Oh
ici depuis des
oui.
années, mais il n'y a pas Mint en Europe. Donc que tu veuilles ou que tu veuilles pas, Mint n'existe pas. Donc on demande des Mint depuis longtemps par ici. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les banques elles-mêmes commencent à développer leurs propres services, mais elles sont nulles. Et il n'y a encore eu aucun service. Je crois en France ça existe. Je me souviens plus du nom exact. On m'avait fait remontrance. Mais en Suisse, j'ai jamais encore trouvé un service qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre sur son compte bancaire et qui nous analyse ça de manière bien. Mais Mint, bien sûr, Y Combinator, hein, les premières compagnie à être sortie de là, je crois.
Ouais, donc voilà, pendant qu'on parlait dans la vraie tradition deep tech, j'ai mis mes menaces à exécution, donc le compte est mort. Alors ils sont pas hyper doués dans la gestion du churn, hein, quand on appelle, parce que d'habitude, vous savez, quand on efface un compte sur Facebook ou sur Audible aussi, il y a quatre pages dans oh non, ils mettent un petit panda qui pleure, après ils disent non, non, on vous offre 20% à vie, après voilà, ce genre de truc. Là, rien du tout, c'était juste merci, au revoir, donc. Un peu déçu quand même. Je pensais qu'il m'aimait plus que ça, mais bon, visiblement pas. Bon, bah, autant pour moi. Mike, tu vas nous parler d'une application qui t'a plu, qui s'appelle Blendle, Blendle, qui est le iTunes du journalisme. C'est possible qu'on ait déjà touché un mot, mais je vois qu'elle est revenue dans notre liste et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, dis-nous ce que c'est un petit peu et puis on va explorer tout ça.
Ben moi j'en avais jamais entendu parler. Une fois n'est pas coutume, je l'ai entendu à la télé. Donc c'est rare d'entendre des news tech à la télé qui te semblent intéressantes que t'as pas déjà vu sur Twitter. Alors ça m'a tout de suite dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et alors c'est un truc qui existe, qui vient des Pays-Bas et en fait qui permet. C'est un ancien journaliste tech qui s'est mis avec un autre gars qui avait développé le service et qui permet d'avoir tous les journaux en ligne. Et au lieu d'acheter un journal, tu achètes un article pour 10 à 20 centimes. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que ça s'est énormément développé maintenant depuis une année en Hollande. Il y a plus de 100 000, je crois, utilisateurs, ce qui est pas mal pour la Hollande, hein. Bon, ils sont 10 ou 15 millions, je crois. Mais voilà, ça fait déjà bien. Et la majorité des journaux sont sur cette plateforme en Hollande et ils peuvent faire de l'argent. Donc, ce qui est assez hallucinant, c'est que les consommateurs ont en 25 et 35 ans. Ce qui fait, c'est exactement les consommateurs qui normalement ne payent plus ou ne veulent plus regarder les journaux. Et c'est ceux-là justement qui permettent de downloader et de payer pour des news. Alors, il y avait un des plus grands quotidiens hollandais qui parlait, qui disait ouais, combien de pognon vous vous êtes fait depuis le début. Il disait bon, ça permettrait pas de faire vivre mes 200 journalistes, mais c'était 100 000 euros, il disait. Et bah, la personne montrait que maintenant le New York Times a investi dedans. Et l'idée, c'est alors, c'est pas une app, hein, c'est vraiment un site mobile. On va dessus, un site web, blendle.com, Blendle. Et ben voilà, on s'abonne. C'est dur à comprendre parce que c'est en néerlandais. Donc voilà, même si vous comprenez l'allemand, c'est un peu difficile.
Ah
Et
ouais, c'est bien
ben
en
voilà,
néerlandais.
on paye l'article. Alors c'est pour ça que ça devient le iTunes du journalisme, où au lieu de payer, au lieu de juste devoir acheter le journal, on paye l'article et on le paye entre 10 et 20 centimes. Et je trouvais ça assez révolutionnaire,
Est-ce
surtout que
que
ça
tu as
fonctionne.
des moyens de t'abonner et puis d'avoir, genre, plutôt que du iTunes du journalisme, d'avoir une sorte de Netflix du journalisme?
Flipboard, mais je sais pas si c'est vraiment ça parce que tu payes
Non,
pas vraiment en tout
où
cas.
tu paierais, toi, tu dirais, moi j'aimerais avoir tous les articles là de leur page me plaisent, j'ai envie de tous les lire, parce qu'il y a des articles en anglais hein, quand même, bah, la majorité de ceux que je vois là, donc j'aimerais les avoir tous, mais je ne vais pas payer 20 centimes à chaque fois, j'aimerais pouvoir payer 5 $ par mois et puis all you can eat, tu vois.
Alors ça, je sais pas, une sorte de Spotify du journalisme, ça je sais pas. Je trouvais en tout cas le service assez intéressant pour en parler parce qu'on parle toujours que voilà, le journalisme c'est mort, on sait pas se faire de la thune. Alors bien sûr, là ils en font, mais moins que s'ils achetaient le journal. C'est toujours ça le problème. Mais est-ce qu'il faut s'en faire un petit peu ou plus du tout? C'est un peu ça la question.
Ouais, bon, et puis surtout pour ta gestion du stock, parce que typiquement dans le journalisme, c'est vrai ce qui est moche, c'est que une fois que t'as, ben, tu as passé ta date de parution, tu as quelques jours pour faire ton argent, puis après c'est fini. Donc si tu as un site qui te permet de bien recycler et puis même de te faire un tout petit peu d'argent par rapport à zéro avant, comme d'habitude, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des choses, tu connaîtrais des choses similaires aux États-Unis? Ça te semble familier, Sophie?
Alors, pour les journaux, non. Là, c'est vraiment le business model, en fait, qui est vraiment le truc innovateur
Oui.
de Blendel. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a rien qui est dans ce domaine. On voit beaucoup plus, justement, tout ce qui est avec les subscriptions, qui permettent vraiment de tourner et de
Oui.
pousser le consommateur, en fait, à dépendre de ses plus que ce qu'il a besoin. Donc, il y a avec les livres, je crois, c'est comment ça s'appelle avec les livres? Pas Goodreads. Il y a le
Ouais.
Netflix, des bouquins là qui est sorti il y a, je sais pas, il y a à peu près 4 ou 5 mois, tout le monde en parlait. Et c'est le seul qui me vient, mais pas avec le journalisme. En principe, là, ça avait été plutôt accepté que ça devait être accessible et plus ou moins gratuit pour tout le monde. Donc, affaire à suivre.
Ok.
Mais comment est-ce qu'ils se consomment toujours les par exemple toi tu lis toujours des journaux ou tu consommes que des news gratuites, toi Sophie?
Alors moi j'utilise pas mal un truc qui s'appelle Zite. Donc c'est un peu comme Flipboard, mais ça prend aussi les blogs et d'autres, pas que des news, mais aussi des vidéos, des liens à des vidéos. Donc en fait, ça donne le pouvoir à chacun des bloqueurs d'avoir la même force qu'un journal au niveau de sa renommée, entre guillemets, de pouvoir atteindre beaucoup plus de monde. Et ça, c'est quelque chose que je consomme énormément. Et puis, le seul
Comment ça s'appelle? SEZEIT ou ZIT?
ZITE, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas que des journaux, donc il y a des blogs, des vidéos. Donc ça, c'est une autre forme aussi de journaliste. Le seul journal payant que je consomme encore, c'est l'Economist, parce que c'est très difficile d'avoir accès à leurs articles. Mais ce genre.
Ouais, puis moi je trouve là c'est toujours la même chose. Pour moi, des gens qui redigèrent des articles de l'AFP ou de Reuters, etc., bof quoi. Mais The Economist, c'est dur de pas leur laisser que franchement ils font un travail de fond incroyable et puis ils ont une culture incroyable. Enfin, c'est le genre de pilier. Moi je me suis même abonné un temps pour les soutenir. Après, je lis pas assez donc je me suis dit, bon voilà, j'ai fait ma BA, mais c'est vrai que eux. Ouais, ça me chagrinerait de les voir partir parce qu'ils sont extraordinaires.
Mais moi, pour juste venir parler encore de ça, moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'on a toujours parlé des journaux et dans iTunes. Donc, ils ont fait un énorme tapage il y a quoi, 3 ou 4 ans, je me
Oui, oui,
souviens pas,
oui.
quand ils avaient sorti un des
C'est vrai.
iOS en disant l'iTunes Store va permettre de révolutionner tout ça, vous allez pouvoir acheter les journaux. Et en tout cas, autour de moi, je vois personne, pourtant tout le monde a des iPhones, je vois personne utiliser iTunes pour downloader des journaux. Alors ils vont downloader peut-être l'app Help, l'app de Elle ou l'app
Mais tu
de
sais quoi, Mike?
Marie-Claire. Oui.
C'est même plus dans iTunes. Là, je viens d'ouvrir iTunes. Je vois, il y a la musique, il y a les films, bon, tout ça,
Mais
voilà.
c'est
Il y a
peut-être
le.
dans iBooks, non?
Écoute, alors là, je mets audiobooks. Ils ont mis Internet Radio, podcast, App Stones. Je le vois pas, quoi. Simplement, je pense qu'ils l'ont. Ah, ils l'ont peut-être mis dans une app à part pour la bien laisser mourir. Mais c'est plus dans iTunes, en tout cas, que je puisse voir, quoi. Tu vois?
Tu vois, j'aurais cru que c'était dans. Parce que je me souviens, tu pouvais downloader des sortes de livres. C'est vrai que dans iBooks, je vois que des livres, je vois même plus des journaux. Donc, ouais. Ouais, bon. C'est le
Ouais,
flop.
c'est dur, bah
Tu
comme
vois,
quoi.
même
Hein.
Apple ne réussit pas. Hein. Ils n'arrivent pas à tout transformer quand même. Hein.
Mais c'est bien parce
Oui.
que ils ont réussi à faire mourir ça en secret, sans grands articles. Donc, ils sont pas si mauvais.
Je crois qu'ils l'ont plutôt mis dans une app à part et puis que ça doit s'appeler quelque chose et que plus personne n'a nulle part. Ouais, ils sont malins, ils sont forts, quoi, ils sont forts. Bon, et puis comme on arrive dans la période où tout le monde va sortir, là, on va peut-être faire un peu plus court hein, cette fois, parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de news que ça, mais je trouvais intéressant de mentionner une app qui s'appelle Yplan, Yplan, qui a quand même levé 24 millions, hein, donc ils ont un minimum de traction. Et qu'est-ce que ça fait? Là, c'est aussi un truc tout bête, c'est qu'on a pas mal d'apps de Discovery Mais eux, ils ont simplement lié ça au fait de pouvoir acheter des billets pour des soirées. Alors plutôt pour des soirées qu'on appelle long tail, donc c'est-à-dire pas pour des énormes concerts à Madison Square Garden, mais plutôt voilà pour les petites choses qu'on ne connaît pas forcément. C'est voilà, on ne sait pas quoi faire, on browse et puis on tombe sur un truc, on achète directement le billet et puis on y va. Il semblerait que ce soit, enfin c'est le genre d'idée. Je me demande même pourquoi en fait ça n'existe pas encore. Ça me semble assez limpide, non? C'est bien comme idée.
Moi, j'avais une app comme ça quand j'étais à Madrid, juste pour la
Ah.
ville. Il y avait quelqu'un en Espagne, à Madrid, qui avait créé cette app et il y avait les tickets pour des concerts un peu locaux, etc. Et c'était pas mal du tout. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que chaque, si on a des citoyens un petit peu actifs dans une ville, pourrait mettre en place juste pour leur ville. Je sais pas si on arrivera à avoir quelque chose qui peut scale up pour partout, mais par ville, je vois pas trop ça comme quelque chose de trop compliqué.
Après, c'est clair qu'il faut pas planifier. Donc voilà, tout d'un coup, tu peux te balader à quelque part et te dire, ah ben, qu'est-ce que je peux faire là? Et puis là, tu regardes et puis localement, ils te proposent des choses à faire tout de suite. Ça peut être aussi, ben, si tu fais du tourisme ou des trucs comme ça, ou
Oui.
je vois l'intérêt. Après, j'ai jamais vu quelque chose de fonctionner, voilà, comme tel. Ce qui serait plus dur, c'est d'obtenir les billets. Donc, si après t'es relié avec Broadway, avec ci, avec ça, pour essayer d'aller avoir les tickets les moins chers sur Broadway, un quart d'heure avant le show, moi je dis respect et c'est cool. Après, voilà. Qui va au cinéma encore? Plus personne. Donc finalement, on reste chez soi et puis on reste encore chez soi.
Je pense que c'est plutôt pour des petits concerts, genre pas à 3 personnes, mais tu vois, plutôt 200-300 personnes, peut-être des trucs où tu peux encore trouver des billets. Effectivement, là, il vise hein, vraiment les trucs un peu plus petits. Donc c'est vrai que le problème quand tu vises un peu plus petit, bah, tu dois évidemment pouvoir faire beaucoup plus de partenariats. Juste pour dire, ils ont entre 500 000 et 1 million d'installs actuellement sur juste le Google Store. Avec une note moyenne de 4, donc 4 ça va, hein. Il faut avoir 4 ou 5, on le sait bien. Et ils disent qu'ils sont pour le moment à New York, San Francisco, Las Vegas, et intéressant, Londres et Edinburgh. Donc ils sont même en Europe. Bon, à voir. Ils ont aussi 4 de moyenne sur Apple, sur l'i Store. Donc
C'est
ouais, pas
bon
mal.
quatre, c'est bon
Ouais,
quatre.
4 c'est bien, faut réussir, hein. C'est le minimum, mais faut réussir quand même à l'avoir, c'est vraiment pas évident parce que le consommateur est exigeant de nos jours, du coup.
Moi, parlant de ce genre d'app un peu local, un peu voilà, qui essaye de nous faire découvrir des choses, moi je suis tombé sur une app. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais ça s'appelle Yikiak. Je sais pas si vous les
On a
avez
parlé la
vus.
semaine passée.
J'étais là.
Je sais pas qu'est-ce qui doit m'inquiéter le plus, que tu te rappelles plus de là, que tu te rappelles plus si tu étais là ou pas.
Ouais, je crois que j'étais
Bon.
là. Mais en fait,
Oui,
bah, même si on en
t'étais
a
là.
parlé, j'en reparle parce que là, je l'ai testé. Et puis,
Ah.
c'était assez cool. Franchement, c'était assez cool. Ce qui est cool, c'est qu'au final, t'as même pas besoin de te loguer. Tu peux tout de suite commencer à interagir. C'est très local. Donc, quand tu regardes, bah, voilà, nous, en tout cas, je regardais sur Lausanne. Donc, il y avait presque que les gens de l'EPFL qui utilisaient Yikiak. Donc, c'est très lié aux universités. Et puis, il semblerait que ça explose aux
Oui.
États-Unis. Je sais pas, Sophie, t'en as entendu parler sur MIT, ils étaient tous en train d'y kiaquer.
Pas encore, mais je vais explorer ça. Bah,
Moi,
justement,
je me dis,
vas-y.
vas-y.
Non, non, vas-y, finis, et puis après je reprends.
Non, mais moi, ce que je pense, c'est que ce que je me dis toujours, c'est tout ce qui vient et qui prend dans les universités, souvent, ça a tendance à se développer. Et donc, pour qu'elles prennent comme ça aussi rapidement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein.
Ben là, justement, ben, une des apps qui prend pas mal, ça s'appelle Happn. C'est un petit peu, c'est Tinder, mais ça marche beaucoup mieux. Enfin, c'est le nouveau truc, c'est un peu comme Grindr, l'app qu'il y avait. En fait, ça permet de rencontrer les gens qui sont vraiment juste autour, donc dans un petit périmètre. Et c'est vrai que ça a pas mal changé, en fait, mon dîner traditionnel avec mes copines. Parce que maintenant, on télécharge cette app et on s'amuse à écrire et à charmer les gens qui sont autour avec ce genre d'app. Et c'est vrai que
Et
ça change la dynamique.
comment elle s'écrit?
Alors, c'est H
APENDAP.
A2PN. Et c'est vraiment
Ah,
juste les
parfait.
gens qui sont autour. Donc si quelqu'un autour du restaurant ou du bar a cette app, on peut voir en fait qui est cette personne. Et puis à la place d'offrir un
Ah
verre, c'est gratuit, on peut envoyer ce qu'ils appellent un charme à la personne.
ouais. Ah ouais, ils essayent pas d'être forcément hyper subtils,
C'est pas
effectivement,
du
mais
tout.
c'est marrant,
Bon.
hein. C'est vrai que ce local, mais c'est incroyable quand
Oui.
même qu'on le voit arriver maintenant si
Oui.
fort.
Bon, nous, on en parlait déjà parce qu'il y avait eu l'app Color qui faisait exactement ça, en fait.
Oui,
Mais
mais tu te souviens, on avait été aussi prompt à dire que comme quoi ça marchait pas, enfin
parce
qu'on
qu'il y avait
n'arrivait pas.
personne. Mais je crois que l'angle, c'est quand même un peu le dating, hein, là. C'est comment draguer sans forcément un petit
Ouais.
peu. Enfin, c'est ma conception parce que quand même, Tinder, ça s'utilise beaucoup pour ça. Mais enfin, Appen, bah, c'est comment tu peux parler à une personne sans vraiment lui parler. Moi, je trouve bien, hein, parce que moi, limite, je trouve c'est plus drôle d'envoyer des SMS qu'aller parler directement, non? C'est ça notre
Mais
génération.
moi, j'ai quand même une question, parce que qui est derrière Appen? Parce que je veux pas faire mon Hercule Poirot de service, mais enfin, c'est appen.fr le site. Donc,
Non, mais
il
t'as mal
doit.
traduit. C'est HAPPN, hein,
Exact.
pas
Ouais.
EN.
Appen, et puis si tu cherches
Oui.
leur site, c'est appen.fr.
Ah,
It's the
d'accord.
newest, hottest dating app. So surprising, disent-ils. Tu vois?
Écoute.
Donc il faut qu'on creuse, il faut qu'on découvre qui est derrière. On va mettre
Ça.
Happen, Founders, et puis on va trouver. Ça doit être quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste quelque chose, je pense.
C'est beau ça veut dire
Didier
Jean-Claude Duss.
Rapaport.
C'est Jean-Claude Duss à mon avis. Il était tellement doué au niveau drague.
Non, vous voyez,
Ah.
Didier Rapaport, qui était avant chez Dailymotion. Donc quelqu'un qui a voilà qui a, vous savez, qui prouve qu'il sait faire et puis mais bon donc ils sont évidemment une équipe plutôt ah par contre quand j'essaie d'aller voir l'équipe sur le site ben, ça fonctionne pas comme quoi voilà bon voilà en tout cas on va découvrir qui c'est ce monsieur Didier Rapaport et il fait bien bon bah écoute excellent s'il y a d'autres choses dont vous voulez parler avant qu'on passe à la partie inspiration où est-ce qu'on est bon?
Moi, j'ai tout dit.
T'as tout dit, ce qui est rare, ce qui est
Et
rare.
puis non, je vais pas encore parler d'Amazon parce que là, on va me détester.
Oh, c'est ça, t'as
Peut-être deux
raison. Je pense que tu.
secondes sur le Google Trusted Store Badge.
Ouais.
Justement, comme je disais, je faisais pas mal de shopping là, sur Internet, mes courses de Noël. Et tout
Ouais.
d'un coup, j'ai vu un énorme badge sur le côté de mon écran apparaître. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai cliqué. Et ça m'a permis de voir si le marchand que j'avais sur Internet, comme par exemple, était rapide, responsive, répondait rapidement aux demandes, quelle était le customer satisfaction, combien de
Ah.
demandes et de ordering s'était fait dans la dernière, je sais pas, un laps de temps, semaine ou journée, j'ai pas fait attention. Et puis, donc j'avais beaucoup d'informations sur le retailer. Et en fait, c'est Google qui a développé ça. Et maintenant, ils ont un label pour les marchands online pour savoir si c'est des bons marchands. Donc, on voit vraiment ce phénomène de trust que Google est encore en train de développer. Peut-être qu'ils vont faire payer, je pense, je sais pas, ce label pour s'enrichir, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ça m'a bien servi.
Ouais, excellent. Et en tout cas, il y a pas encore ça chez nous. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu vois ça dans shopping ou carrément n'importe où. Donc,
Alors,
tu vois ça. Tu tapes par exemple. Ouais.
dès que je suis sur le site web d'un des marchands, donc par exemple si je suis sur le site web d'Amazon ou un marchand beaucoup moins connu, eh ben je vais voir en bas à droite le label de Google qui va sortir comme un pop-up.
D'accord.
Ben
Ouais,
voilà, là je vous
c'est
envoie
vraiment
le.
ah ouais, c'est vraiment intéressant quoi. Bon ouais, ça va bien pour Google, c'est des data, ça leur permet de ouais, enfin c'est hyper bien vu. Et ouais, on parlait de la confiance et on disait qu'il fallait avoir confiance en eux pour leur donner nos emails. Et ben là, faut aussi avoir sacrément confiance en eux pour leur laisser être une sorte de gateway à qui on va acheter. Mais déjà, rien que maintenant, ils sont comme ça. Parce que si ils disent que le site là est pas mobile friendly ou qu'il y a un malware ou quoi que ce soit, personne n'y va. Donc, ouais, c'est vraiment
Et je pense
intéressant.
qu'aussi, ça aura un impact sur la, sur ton référencement sur
Bien
Google.
sûr,
Donc, le fait que tu
c'est
sois un
clair.
trusted store te donnera aussi d'apparaître mieux, d'être mieux référencé. Moi, je pense que c'est bien. Hein, c'est une étape qui me plaît finalement parce que on voit là, il y a un phénomène qui s'est passé qui est assez intéressant sur Facebook parlant du retail. Étant donné que c'est un peu Black Friday en Europe, mais pas vraiment, mais tout le monde regarde, il y a quelqu'un qui a commencé à envahir Facebook de ads pour des vestes Moncler. Donc peut-être les fashionistas d'entre vous savent ce que c'est. C'est des vestes à plus de 1500 balles qui sont hyper trendy. Et quand on va dans les qu'on va à Gstaad qui est un peu voilà trendy ou à Saint-Maurice, vous en voyez plein. Et alors ils ont fait beaucoup beaucoup de pubs sur Facebook en Suisse. Il y avait un site web qui vendait au fait ces Moncler à 70% du prix. Donc, de 1500 balles, on pouvait les toucher à 200 francs. Et ce qui est, et ça demande maintenant le questionnement, c'était est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est des vrais faux Moncler, qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai entendu parler de plusieurs personnes, alors bien sûr de la gente féminine qui disait ah j'ai vu cette pub sur Facebook, ouais des Moncler à 100 balles ou 200 balles, incroyable et tout. Et finalement quand on lisait après les commentaires, on voyait que les gens ils faisaient pas confiance, ils disaient non c'est des faux, c'est si, il y avait une méfiance juste à cause de la différence de prix.
Mais
Voilà.
justement, mais la question que je me pose, c'est comment, parce que après, si moi je crois ce que Google me dit et que c'est pas le cas, est-ce qu'il y a une responsabilité de Google où ils mettent ça, mais en même temps ils disent dans leurs conditions, nous n'avons aucune responsabilité si vous commandez cette
Je pense qu'il
personne.
n'y a pas, ils te donnent, je pense que comme c'est tourné, c'est pas qu'ils te disent oui, non, ils te donnent des données, non? Ils
Il
te
me donne
disent
des données. Il me
voilà.
donne des données pour moi de juger si j'ai envie de passer ma commande. Mais bon.
Exactement, je pense qu'ils vont le dire comme ça. C'est comme si tu te retournes vers ton wearable qui te dit, écoutez, vous avez dit que si je faisais assez de pas, je serais en forme. Ils vont dire, ah, nous, on t'a dit, voilà, tu bouges pas, tu fais ce que tu veux après, quoi. C'est à mon avis, ouais, c'est à peu près sûr qu'ils ont un truc dans ce goût-là,
Ouais,
quoi.
mais c'est dangereux
Bon.
parce qu'ils prennent certaines données. Donc oui, ça m'aide, mais ça m'influence aussi. Et s'ils avaient peut-être d'autres données où ils auraient eu accès, j'aurais pris une décision différente. Donc ils interagissent dans ma décision. Donc il y a une certaine responsabilité. Mais bon,
Ah, mais
bref.
de toute manière, ils font ça déjà avec toutes nos vies, avec toutes
Ouais.
les recherches, etc. Ils manipulent ce qu'on voit et ce qu'on voit pas déjà. Enfin, ils manipulent pour notre plus grand bonheur, évidemment, mais néanmoins, hein, donc, ouais. Bon, je vous propose de terminer cette émission en beauté et en fanfare et en feu d'artifice avec la partie inspiration. Je sais, tu nous as dit avant l'émission que Peter Thiel, notre ami allemand est à Boston et il se trouve aussi qu'il a écrit un bouquin. Donc, l'un et l'autre, comment il s'appelle ce livre, Sophie?
Zero to, c'est combien? Zero à
À one, j'imagine.
Zero to one,
Zero to
exactement.
one, bien joué. Et il reprend en fait, il reprend un peu ses cours parce qu'il a donné des cours à Stanford et les leçons qu'il donne à ses étudiants et il essaye de les mettre dans le bouquin.
Ah, cool. Mais il est assez rentre-dedans, disons, l'ami Peter Thiel. T'as une idée de ce qu'il raconte dans ce Zero to One ou vous avez déjà vu? Faut s'attendre à quoi
Je crois qu'il
pour ça?
parle, bon, dans les revues, qu'il y a à peu près plusieurs revues sur son bouquin, donc il y a un peu de tous les avis, mais il y a beaucoup sur la nécessité d'avoir une compétition qui est saine contre un monopole. Et puis d'un autre côté, il dit, ah, c'est intéressant le monopole, parce que c'est justement là où ça démontre qu'il y a vraiment une innovation. Quand il y a de la compétition, c'est qu'il n'y a pas eu d'innovation. Bref, comment dire, il refait un peu l'économie, les théories, ouais, je sais pas, écoute, pour moi, ça m'a l'air bien,
Ça te
mais
parle, bon.
c'est peut-être pas ce que je vais encore lire à Noël, je sais pas.
D'accord. C'est marrant si vous allez sur leur site qui s'appelle Zero to One Book, tout en un mot.com, et que on scrolle. Alors, il dit, il met 96% de revues positives sur Goodreads, 4,8 sur 5 de revues sur Amazon, donc c'est pas mal, les deux appartiennent à Amazon, donc tant mieux pour eux. Après, il parle de Readers of Blake's Notes, je sais pas ce que c'est Blake's Notes là pour le coup, si c'est un site ou si c'est quelqu'un qui s'appelle Blake et qui a fait dedans. Et puis il y a 3,5 heures de lecture, bon voilà, ça c'est la longueur du livre. C'est marrant son site, il est assez bien fait, un petit peu de data comme ça, très factuel, vraiment, vraiment intéressant.
Bon, c'est un VC hein, maintenant, cette personne. Moi, je voulais, c'était le prochain bouquin sur ma liste. J'ai lu le bouquin de Ben Horowitz qui est vraiment splendide. Si vous le, je me souviens plus du nom, mais tapez Ben Horowitz, vous le trouverez. Et celui-là, c'était le prochain sur ma liste. J'ai entendu un interview de lui sur Tim Ferriss, le podcast de Tim Ferriss. D'ailleurs, je vous dis tous d'y aller parce que si vous parlez l'anglais, c'est vraiment cool à écouter. Et il parlait Peter Thiel et il expliquait un peu son livre. Je crois aussi qu'il met un grand coup de pied dans tout ce qui est études et tout ce qui est université aux États-Unis en disant que le modèle est un peu cassé et que finalement, vaudrait mieux, au lieu de payer 200 000 dollars et commencer à endetter, à vouloir faire des MOOC et puis à auto-apprendre sans passer par l'université. Donc il en parlait. C'est vrai qu'il n'a pas la langue dans la poche, mais il m'a l'air d'un bon gars. En tout cas, c'est vrai que je ne le lirai pas à Noël, mais en janvier peut-être.
Ouais, et là, Blake Masters, alors en fait, c'est là, ce Blake Notes, c'est le site web, le blog où il a ses notes du cours, justement, c'est blakemasters.com. Et là, une quote, Mike, tu vas me dire si tu veux la traduire. Je la trouve pas terrible, hein. C'est « Your mind is software, program it. Your body is a shell, change it. Death is a disease, cure it. Extinction is approaching, fight it. » Bof, quoi.
Ouais, bof. Mais j'aimais bien les deux premiers.
À part ça, Mike, t'avais parlé, je crois, dans un des podcasts précédents de Niptech, justement, de Tim Ferry. Et j'avais, après ça, été sur le site web et j'avais écouté le même podcast que toi avec Peter Thiel. Et ce qu'on reprochait à Peter Thiel, c'est que lui, il a fait law school, vraiment les meilleures universités. Ouais. Et il répète à tous les entrepreneurs, n'allez pas à l'université, vous avez pas besoin de ça. Donc c'est vrai que une des gros reproches qu'on lui fait, c'est que c'était complètement hypocrite comme approche. Donc moi, je serais quand même intéressée en fin de compte maintenant à lire ce livre parce qu'il m'a l'air assez schizo quand même comme personnage.
Non mais c'est un mytho, Peter Thiel. C'est un mytho. Il a réussi, mais il a le biais que mentionne Bill Gates, c'est que les gens qui ont réussi, ils croient qu'ils ont tout compris pour tout le monde. Alors qu'effectivement, essayez d'aller vous pointer dans des meetings en disant j'ai un papier de Stanford ou bien j'ai monté deux startups en bossant à côté pour survivre. C'est clair qu'on va pas être reçu la même chose. T'as tout à fait raison de le souligner. Hein, c'est toujours.
Donc toi, vu que t'as bossé pour Google, tout le monde t'ouvre des portes, Ben. C'est ça que t'es en train de dire.
Sincèrement, le nombre de portes que ça m'a ouvert est absolument hallucinant, quoi.
Ouais, c'est dingue. Donc, en fait, ça te crédibilise, hein. C'est comme un stamp, c'est comme une validation, c'est comme Google Trusted Shopper. Toi, t'es Google Trusted Employee. En plus.
Exactement, ouais. Non, c'est vrai.
Bon, en plus, t'étais un développeur, donc, enfin, un ingénieur, pardon, pas développeur. Et donc, c'est vrai. Mais finalement, c'est pas faux, hein. Si tu rentres dans une boîte où c'est dur à rentrer, ben, forcément, t'as le stamp. Moi, je trouve intéressant. Bon, moi, c'est le genre de bouquin que j'aime bien. Je trouve que les VC commencent à écrire de plus en plus. Et je trouve que souvent, ils mettent des coups de pied dans la fourmilière et puis ils changent un peu la manière de penser des business books. Donc, moi, je le mets un peu dans la même direction que les Apos et autres.
Bon, bah, vous nous direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez lu, parce que là, on fait comme dans les... C'est le seul point où on se rapproche des vrais journalistes, c'est qu'on n'a pas non plus lu le bouquin et qu'on en parle en long, en large et en travers. Donc voilà, c'était notre point média. On va terminer avec la quote, Mike, que tu nous as préparée. Quelle est-elle ?
Alors, vu que peut-être j'oublie les choses récemment, peut-être je les ai déjà dites, mais en fait, en même temps, 255 épisodes, voilà, j'ai pu peut-être me répéter avec la quote. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé une quote d'Aristote.
Ah.
Attention. Donc, ok. Mais elle n'était pas trop compliquée, mais Ben, de toute façon, tu l'as traduit, donc tu es prêt?
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors, to avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing.
Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien.
Voilà.
beaucoup d'assurance là-dessus parce qu'Aristote, on trouve ses quotes, ses citations en français aussi. Donc, c'est...
J'ai cru que la traduction allait se faire ou en grec ancien ou en latin. Je suis rassuré.
Mais je trouvais que c'était intéressant. C'était intéressant surtout dans le monde des startups ou dans le monde où on a des idées et puis finalement ou dans n'importe quel monde où finalement on se dit ouais bon non parce qu'on va me critiquer ou je fais pas ça parce que si puis finalement quoi qu'on fasse on se fait critiquer hein, donc finalement faites quoi, c'est plus facile.
Oui, absolument, absolument. Bah, c'est une très très belle, un très bel appel à l'action. Pour terminer ce NipTech 256, nous, on a été évidemment extrêmement heureux de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous contacter hein, sur niptech.com. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez nous contacter aussi via Twitter, chacun d'entre nous. Rappelle-nous ton Twitter, Sophie.
C'est Shiloh App.
Ouais. Donc, S-H-Y-L-O-A-D-P.
Ouais.
C'est ça? Ok, et puis @side_syde, @bcurdy aussi, et @niptechpodcast évidemment, vous pouvez télécharger nos apps, vous connaissez tout ça. Nous, la chose qu'on se réjouit, eh bien, c'est de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, eh bien, amusez-vous bien et passez une très très bonne semaine. Faites-nous votre retour sur Yikiak et Happn, ça nous intéresse vraiment. Allez, ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao.